Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur les ondes FM en 107.5. L'émission est en podcast aussi sur www.rdwa.fr. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Françoise Marr, bonjour.
Bonjour.
Et de Marie-Ange Castella-Levin, bonjour.
Bonjour.
Toutes les deux, vous êtes ici au nom des Chouettes, une association qui s'est créée au mois de juin et qui est en quelque sorte la suite des collectives qui existaient auparavant. Vous êtes ici aussi pour nous annoncer deux soirées, une qui se déroulera le 24 novembre à Châtillon à 14h.
Il est prévu jusqu'à l'installation du couvre-feu, et je ne sais pas, mais j'espère que ça sera possible, un atelier violence et femmes. En parler et agir à Châtillon-Andiwa, mardi 24 novembre. C'est ouvert à tout le monde, gratuit. Et c'est l'après-midi. Okay. Et donc, cela sera-t-il suspendu à suivre ?
Renseignements à prendre auprès de l'organisation. Donc, et puis aussi, le 25 novembre, au Pestel, vous proposez une projection.
Effectivement, le cinéma projette Slalom à 17h45. Horaire inhabituel, de manière à bien sûr avoir tout fini, notamment le débat qui suivra avant 21h. C'est un film tourné en Rhône-Alpes, fort intéressant, et le débat sera animé par une personne du planning familial de Valence, habituée à intervenir auprès des jeunes dans les milieux scolaires pour la prévention des violences sexuelles.
Mais le sujet, c'est le consentement.
Et Slalom, on peut porter à la connaissance le résumé de ce film ?
Slalom, c'est une jeune fille qui est en section sport dans les Alpes, et, au lycée, et qui a un trajet donc, scolaire particulier. Et elle est coachée par un gars qui va être très sensible à ses charmes, de plus en plus, et qui va la mettre sous emprise. Trois petits points.
Donc voilà, ça sera pour cette soirée un départ avec cette projection, et ensuite un débat qui suivra. On peut peut-être spécifier les personnes qui seront présentes.
C'est Hélène du planning familial de Valence et les Chouettes.
Qui sont les Chouettes? Combien sont-elles pour œuvrer, du moins dans le Diwa?
Alors actuellement, nous sommes une quinzaine. Et on espère que le nombre va aller en crescendo. On était présents au forum des associations et plusieurs femmes se sont sensibilisées à ce moment-là. Et puis voilà, et on est en train de mettre en place des groupes de réflexion et de travail. Le premier étant celui que nous menons depuis le départ et depuis l'origine. La déclaration qu'on a faite à la préfecture, qui est vraiment celui des violences faites aux femmes. Mais il y a également toute une partie qui concerne plus le public, la sensibilisation, les partenaires, comment entrer en relation avec des partenaires. Et ça, c'est à la fois dans notre groupe, mais c'est aussi plus vaste pour une sensibilisation. Nous avons un groupe aussi qui veut travailler sur comment accompagner les hommes auteurs de violences. C'est en réflexion, et voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore en fonctionnement réel. Et puis, un groupe qui va travailler plus sur l'administration de l'association et sur toutes les demandes de subventions, puisqu'actuellement, nous sommes avec juste les adhésions comme moyen financier, ce qui est largement insuffisant vu tout le travail qu'on se donne.
Voilà, l'adhésion, merci. L'adhésion est à 10 euros.
Qu'est-ce que vous proposez précisément aux personnes qui appellent les Chouettes pour avoir un recours ou même une aide ?
Eh bien, une femme qui subit ou qui a subi des violences, une jeune fille, les parents d'un enfant, peuvent s'adresser à nous. Nous avons trois personnes qui écoutent avec bienveillance, avec professionnalisme, avec une expérience derrière, qui oriente vers un réseau personnalisé. Nous avons, en termes juridiques, avocats, avec la gendarmerie, avec les soignants, sages-femmes, infirmières, médecins, nous avons un réseau de partenaires qui ne rajouteront pas de la violence lorsqu'ils auront en face d'eux cette femme ou cette jeune fille ou cet enfant, qui sauront comment être encore plus attentifs à respecter la personne. Voilà, donc c'est, j'ai dit écoute, orientation, accompagnement au long cours. On peut venir vers nous les chouettes et puis ça peut durer des années parce qu'en fait, notre travail, on l'a commencé il y a plus d'un an, hein. Voire de nombreuses années comme Marie-Ange. Et donc, venir nous voir, ça ne signifie pas je veux aller en justice. Ça signifie peut-être que ça me fera du bien de partager. Peut-être que je ne trouve pas d'avocate. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux saisir directement les procureurs? Toutes sortes de questions pratiques.
Je veux dire aussi que plusieurs de ces femmes ont déjà un parcours de réflexion sur leur histoire et qu'elles souhaitent se retrouver entre elles pour en parler. Voilà, donc ça, nous serons présentes aussi pour animer ce genre de cercle.
Qu'est-ce qui amène ces femmes ou d'autres personnes à venir vous rejoindre ou à vous solliciter? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas d'autre solution?
Eh bien, nous serons bientôt dans un désert médical ici, mais nous sommes déjà depuis plusieurs années dans un désert pour les femmes, parce que Valence, c'est à 60 km. Nous avons deux permanences, celle de Remède et celle du CIDFF. Ce sont des permanences mensuelles, a dit, qui spécifiquement pour les femmes, pour les personnes victimes de violences en ce qui concerne Remède, pour les femmes victimes de violences en ce qui concerne le CIDFF. C'est une permanence, la permanence d'une juriste au CIDFF. CIDFF, Centre d'information du droit des femmes et des familles. Un acteur incontournable. Mais donc, oui, il n'y a rien. Et donc, quand on vient du Haut-Diois, quand on travaille, quand on n'a pas les moyens, c'est difficile, c'est très difficile. C'est sur rendez-vous, il faut être organisé. Donc nous sommes un intermédiaire, nous sommes un maillon. Nous orientons vers le CIDFF, le cas échéant, et même quasiment systématiquement, mais nous permettons à la femme déjà de clarifier ce qu'elle recherche. Et puis, sur quoi elle peut s'appuyer? Et quels sont les freins principaux? Bon, voilà, on a toutes des manières différentes, mais grosso modo, on aide à clarifier son projet et surtout, on prend en compte le temps long. Sauf s'il y a, c'est déjà arrivé, une urgence, parce qu'il y a un féminicide possible. Mais on a quand même du temps. La femme, en général, elle part 7 fois du foyer avant de prendre vraiment sa décision. Et les femmes, avant de déposer plainte, si c'est leur projet, elles peuvent hésiter longtemps. Et nous, voilà, nous sommes là, non pas pour l'encourager à déposer plainte, mais pour l'accompagner. C'est une posture différente.
Donc, comme vous dites, il y a plusieurs étapes dans votre organisation des chouettes. Quand une personne vous sollicite, il y a plusieurs manières de la diriger. Et vous avez plusieurs propositions dans ce domaine.
Enfin, c'est plutôt d'approfondir les relations avec les professionnels avec lesquels ces femmes-là vont être en contact. Donc c'est des rencontres individualisées et puis également au sein de l'Agence régionale de la santé, puisqu'il y a un groupe femmes, santé des femmes qui travaille régulièrement depuis déjà plusieurs mois et sur les violences en particulier. Voilà, donc il y a différentes possibilités qui nous sont offertes et de plus en plus, nous avons l'impression, enfin même la certitude que ça va à petits pas vers une amélioration.
Par exemple, nous allons bientôt organiser un stage d'autodéfense féminine. C'est vraiment demandé, ça, par les femmes et aussi par les mères pour leurs filles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut proposer. On propose un groupe de parole aussi pour les femmes victimes de violences. On les assure d'un parcours bricolé sur le terrain pour le moment à l'hôpital, mais nous sommes en pourparlers pour asseoir quelque chose de confortable avec des gens formés au sein du centre hospitalier de Die. Hein, ça, c'est un gros dossier que bien sûr nous sommes motrices, mais nous allons le réaliser avec le personnel hospitalier lui-même, bien sûr. Sur la question du logement aussi, nous pouvons accueillir en urgence une femme qui quitte la maison. Nous avons des adresses vers où les orienter. Nous travaillons beaucoup nous-mêmes en partenariat avec... les chouettes sont rien sans les autres. Hein. Donc, par exemple, j'ai parlé du CIDFF, de Remède, des psychologues.
Une avocate aussi, nous avons rencontré une avocate.
Et le principal obstacle que nous rencontrons dans cet accompagnement sur le terrain, pragmatique, c'est les délais de traitement qui mettent la femme dans un désarroi pour être à minima et qui rajoute du danger à sa situation dans bien des cas. Malgré la bonne volonté des acteurs locaux, si une femme porte plainte pour des faits graves, avant que, bien que ça soit une priorité au niveau national, depuis un an au moins, eh bien qu'on dispose à Valence d'une substitut au procureur, Mme Sauvagnac, chargée des violences, qui est au taquet, et malgré tout, les délais nous affolent. Donc c'est vraiment une grosse difficulté, ce délai de traitement. Et puis, et aussi le fait que notre but, c'est que les femmes aillent mieux. Alors ça passe par tous les moyens, le juridique ou pas, la voie de la justice ou pas. La voie de la justice est autre chose. Se reconstruire, c'est par exemple retrouver un petit peu d'estime de soi, un petit peu de calme. C'est reprendre goût à la vie. Ça va prendre des années. Et nous souhaiterions avoir des consultations gratuites de psychiatres à l'hôpital, de pédopsychiatres pour leurs enfants qui sont toujours victimes. On va en reparler. Et ça, c'est indispensable. Nous avons donc des consultations de psychologie, mais en nombre limité pour le moment. Il en faudrait davantage, et des professionnels de santé formés à ce public spécifique.
À vous entendre, pour l'exemple, celui de l'atelier d'autodéfense, est-ce que les femmes ont-elles pu acquérir une certaine autonomie? Est-ce que ça, il existe une carence dans ce domaine? Est-ce que psychologiquement aussi, il y a d'autres techniques qui permettraient à la personne de retrouver une certaine autonomie?
Les stages d'autodéfense ont le gros mérite, non pas de dénouer des muscles très, très, très stressés, très tendus, ou de retrouver une souplesse en un week-end. Mais par contre, ce qui est intéressant pour les femmes comme pour tout le monde, c'est d'inscrire dans le corps les changements, de vivre avec sa respiration, avec les mouvements de son corps, d'expérimenter des situations qui sont fort inhabituelles pour les femmes, pour réagir. Je voudrais vous lire, si c'est possible, un extrait de Notre corps nous-mêmes, qui parle très bien de ça. Notre corps nous-mêmes, c'est paru aux États-Unis en 73, écrit par des féministes. C'est très intéressant, et on le trouve à la librairie D, et ça a été réadapté par des femmes françaises. Ça vient de sortir. Je cite: « Nous avons appris qu'il faut souffrir pour être belle. Et comme en miroir de cela, nous avons aussi appris à craindre de nous faire abîmer le visage ou casser le nez en nous défendant physiquement, à redouter de devenir trop musclé en pratiquant des sports de combat. Nous avons entendu d'innombrables poncifs comme « c'est pas joli pour une femme de se battre ». Ne serait-ce que le fait de donner notre avis dans une conversation, de nous y tenir, nous est renvoyé comme une forme d'agression. Nous avons appris qu'il faut toujours sauver les apparences, rester calme, douce et polie, nous tenir à distance de la vulgarité, du ridicule, de la violence et de tout ce qui pourrait être apparenté à de l'hystérie. Nous avons appris à nous occuper des autres avant de prendre soin de nous et à nous sentir coupables des violences que nous subissons. Nous avons appris enfin à mettre toute notre empathie en œuvre pour essayer de, ouvrir les guillemets, comprendre les raisons de la violence de l'autre, lui trouver des excuses. Voilà, je trouve que c'est fort parce que, de façon collective, les femmes de ma génération, j'ai 58 ans, et des générations antérieures, sont inhibées. Enfin, je veux dire, moi je suis sportive, mais je suis inhibée malgré tout, dans la gestuelle par rapport aux hommes, aux jeunes hommes, aux enfants, aux garçons. Je l'observe, ils sont beaucoup plus déliés dans leur mouvement. Je finis la citation. Tout cela, les hommes ne l'ont pas appris. Ils ont appris à se défendre en se bagarrant dans la cour d'école. Ils ont appris à s'énerver, à se mettre en colère, à taper, à esquiver des coups, à se prendre des poings dans la figure et à avoir des bleus sans que cela soit la fin du monde. C'est même souvent une source de fierté. Ils ont appris à ne pas culpabiliser d'avoir peut-être réagi de manière excessive. C'est un signe, ouvrez les guillemets, de virilité.
Est-ce que je peux rajouter, là, j'ai été témoin régulièrement de femmes qui essayaient de réagir par rapport à ce qui leur était arrivé et qui, quand elles ont pris un peu de distance par rapport aux violences subies, sont capables après de se mettre en colère. Et dernièrement, une des femmes que j'accompagne m'a expliqué que son ex-compagnon, qu'elle n'avait pas encore vu comme prédateur, mais intimidateur et tout ce qu'on veut dire là-dessous, l'a enfin accepté. Et elle s'est défendue parce qu'il venait chez elle faire du tapage. Elle s'est mise en colère et il lui a dit ce que l'on entend en tant que femme, souvent dans ces cas-là, « Tu es folle, hystérique ». Voilà, c'est les jugements de valeur que les femmes entendent à chaque fois qu'elles prennent le cheval de bataille pour se défendre.
On aborde le fonctionnement aussi des chouettes.
Tu l'as abordé, non ?
J'avais dit qu'il y avait des groupes de travail aux chouettes, mais en même temps, il y a ce qu'on appelle un cercle décisionnaire. Sur le modèle de ce qui se pratiquait à la corderie, on a décidé qu'il n'y avait pas de fonctionnement hiérarchique. Bon, nous étions trois à créer l'association et depuis, ça, bien sûr, le cercle décisionnaire augmente des personnes qui le rejoignent en étant déléguées, en quelque sorte, représentantes de leur groupe de travail. Voilà. Donc, et ce cercle décisionnaire engage tout ce qui concerne les démarches, les actions. Voilà. Et on est donc toutes au même niveau, horizontal.
Comment travaillez-vous avec les structures officielles ? Vous avez cité donc le CIDFF et Romed.
Alors, Romed, c'est une association qui vient en aide à toutes les victimes. Donc à peu près 10%, je crois, des gens qui le reçoivent, ce sont des femmes victimes de violences. Mais on a la chance d'avoir cette permanence qui va mensuelle, qui se tiendra dorénavant, du reste, à la Maison des Services. Mmh. Je crois que ça a changé de nom, enfin, oui, près du CFPPA. Et oui, ce sont des professionnelles, elles sont largement soutenues financièrement par l'État. C'est le Romed, c'est dans toute la France, comme le CIDFF. Ce sont des acteurs vraiment... vraiment, vraiment intéressant. Le CIDFF, il a une mission d'intérêt général confiée par l'État pour promouvoir l'autonomie de la femme et l'égalité femmes-hommes. Donc, au CIDFF à Valence, on a des juristes, des conseillères à l'emploi, à la formation professionnelle, à la création d'entreprises, des conseillères conjugales et familiales. Avant, il y a quelques années, on avait également une permanence de psychologue du CIDFF. A dit, on ne l'a plus, elle nous manque. On a d'autres partenariats. Hein. Romed, c'est Marjolaine Borne qui vient. Voilà, c'est son nom. Mais on est en partenariat également avec les gendarmes, avec le gendarme référent violence au sein de la brigade de Die. Pendant le confinement, on a affiché partout, dans les cabinets médicaux, et puis on a dans les pharmacies, partout c'était possible, à l'hôpital. Donc, ils nous connaissent, certains d'entre eux nous connaissent, et les femmes nous parviennent souvent, par exemple, envoyées par le centre médico-social, par des amis, par un réseau, ce qu'on appelle par la bande, quoi. Enfin, on ne sait pas trop, enfin, on ne sait pas toujours par qui. Marie-Ange, tu as parlé de ces réunions à l'ARS qui ont eu lieu depuis février. On va faire la cinquième réunion, normalement, ça sera la dernière, d'un groupe. C'est un groupe de santé des femmes qui ne parle que de la violence faite aux femmes. C'est nouveau, la question existe. On en est ravis, hein, dans le Diois. Voilà, maintenant, on peut parler des violences très nombreuses que subissent les Diois. Pas plus nombreuses qu'ailleurs, du reste, hein, mais voilà. Un quart des femmes, en général, dans la population.
Tu peux peut-être citer que les partenaires qui sont dans ce groupe, parce que c'est très varié.
Donc, on retrouve dans ce groupe... donc, l'ARS, c'est... L'Agence régionale de santé, c'est celle qui coiffe les hôpitaux et c'est qui mène la politique de l'État. On trouve, bien sûr, nous, les chouettes, la PMI, le CPEF, le Centre de planning et d'éducation familiale, qui est une ressource aussi, hein, ADI. Ressource parce qu'il y a un médecin, le docteur Fiedler, qui propose des consultations gratuites. Elle est sensibilisée à la question des violences. Et puis parce qu'il y a aussi une conseillère conjugale et familiale vers laquelle peuvent s'adresser notamment les jeunes en lien avec l'avortement ou pas, une demande d'avortement. Sont présentes dans ce groupe de travail une infirmière des urgences de l'hôpital, une psychologue clinicienne de l'hôpital, le SIAO, c'est le service, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais il s'occupe de l'hébergement dans tout le département, l'espace social, sont présentes également, bien sûr, le CDFF Remède. Et je l'ai cité, un acteur très intéressant, ce n'est pas la Maison des Services, ça s'appelle maintenant Espace France Service. Intéressant à connaître pour les femmes et leurs proches, parce que c'est là que se trouvent les permanences de la CAF, permanences gratuites d'avocats, etc.
Et oui, simplement, tu as dit PMI, mais c'est plus centre médico-social, c'est parce que les assistantes sociales participent.
Et j'en oublie certainement. Et l'intérêt de ces réunions, animé par Sonia Rochat de façon très efficace, de la RS, c'est de nous permettre de nous connaître. Ça facilite énormément ensuite les coups de fil entre nous, de nous connaître et de nous connaître personnellement et de connaître le champ de nos prérogatives et de nos compétences. Donc, encore une fois, ça fait exister la question de la violence, parce qu'il y a plein de problèmes sociaux à dire, autres, mais la violence, ça peut recouvrir la question d'addiction, ça peut recouvrir la question parfois de la pauvreté, mais pas toujours.
Du logement.
La question du mal-logement, voilà. Mmh. Donc, ça nous permet de... Ah oui, d'accord, on peut aller là, on peut envoyer des femmes là pour ceci. Ok, et les horaires d'ouverture, enfin... Et on va... Notre prochaine réunion sera consacrée à examiner une ou deux situations vécues dans le Diois, anonymisées, pour voir où est-ce que ça, on aurait pu faire mieux, collectivement.
Vous dites à un moment donné qu'il y avait ce contact avec les différents partenaires à titre humain. Et est-ce que par rapport à la société d'aujourd'hui qui tend vers la dématérialisation, est-ce qu'il y a une nécessité de ramener l'humanité ou l'humain dans toutes ces démarches qui ont été délaissées, hein, pour ainsi dire?
Bon, évidemment, pour moi, c'est tellement fondamental. Les femmes qui nous contactent et que nous accompagnons, elles ont surtout besoin de cette humanité qu'elles n'ont pas trouvée sans doute dans l'enfance et surtout au cours de leur parcours de femme. Donc oui, c'est des relations qui sont plus que d'accompagnement. C'est vraiment une relation de cœur qui s'établit avec elles. Et on est à l'écoute, on reçoit les coups de fil, dans la détresse, on répond. Enfin, moi, je sais que je suis disponible. Voilà, et je pense que Françoise l'est, et Lynn aussi. Donc, c'est vraiment rétablir de réelles relations. Et ce qui nous pousse à faire aussi, c'est de faire de la relation entre ces femmes pour qu'elles s'entraident. Et ça commence à se faire.
Oui, vous avez raison, Yves. Se retrouver autour d'une table, c'est bien autre chose qu'une réunion par Zoom, qui nous pend au nez avec ces mesures Covid. Donc, parce qu'être ensemble, c'est tout le non-verbal, c'est les avant et après la réunion. Ça se prolonge par des conversations particulières. On parle des situations qu'on a en commun. C'est indispensable.
Pour ainsi dire, tous ces organismes, la liste était exhaustive ou vous avez encore d'autres?
Oui, il y en a d'autres. Alors, les maires et les mairesses, ou monsieur ou madame les maires, jouent un rôle fondamental. On travaille avec certains d'entre eux, certaines d'entre elles. Et dans nos territoires ruraux, il arrive assez souvent que ce soit la personne vers laquelle, en désespoir de cause, se tournent les femmes. Et là, une sensibilisation et mieux une formation de ces édiles locaux nous paraît vraiment importante parce que par sympathie, par leur tempérament, certains font vraiment ce qu'il faut. Ils se rendent à la gendarmerie, par exemple, ce qui ouvre un boulevard derrière à la femme pour s'y rendre ensuite parce qu'elle a la certitude d'être crue. Voilà, donc nous, les maires, on a aussi des projets en cours, tout comme avec l'hôpital, de partenariat étroit. Et puis, on est aussi partenaire d'une nouvelle association qui s'appelle Femmes Répit, qui s'est créée à la fin de l'été, et qui nous semble complémentaire de la nôtre et fort intéressante. Ce sont trois jeunes Diwaz, la trentaine, qui vont proposer des séjours de répit pour les femmes qui ont vécu des violences, qui en sont sorties, qui ne les vivent plus, mais qui en ont éprouvé la dureté. Et ce sont des séjours de 3 à 4 jours qui se dérouleront quelque part dans le Diwa, pour justement qu'elles retrouvent leurs propres ressources. Elles sont expérimentées dans le domaine des séjours de répit proposés aux enfants en soins palliatifs. Donc là, c'est avec des gens, un public plus âgé. Elles vont se former. Elles sont pleines elles ont une très belle énergie. Donc pour nous, c'est une chance sur le territoire d'avoir, de pouvoir proposer aux femmes que nous accompagnons des séjours comme cela, sachant qu'en fait, les femmes de notre territoire qu'on orientera vers des séjours de répit iront les réaliser ailleurs, peut-être dans le sud du département ou ailleurs, un peu plus loin, dans un souci d'anonymat. Et ce sont celles d'ailleurs qui viendront ici.
Je voulais revenir sur la relation au corps pour les femmes qui ont été victimes de violences, parce que c'est, on va dire, un fondamental pour chacune de retrouver une relation au corps qui soit une connaissance de ses besoins et aussi une reconnaissance de ce qui fait que le corps peut être vivant sans être conditionné par quelqu'un d'autre. Et donc nous avons en ce moment quelques pistes autour du massage, autour de la kinésithérapie. Et donc ça, nous souhaitons approfondir les connaissances de partenaires qui pourront aider à ce niveau-là.
Oui, très bien. Oui, nous orientons déjà vers une kiné, Adi, qui est formée aux violences et qui, pour les femmes pas prêtes à, par exemple, à parler avec une psychologue, pas prêtes encore à mettre des mots sur ce qu'elles vivent et ressentent, comme tu le dis, Marie-Ange, le corps, ça peut être, entouré avec une. Et massé, même pas forcément à la première séance du reste.
Avec le temps et le recul, depuis que vous pratiquez l'accompagnement des personnes victimes de violences, est-ce que vous avez vu évoluer en mieux toutes les propositions gouvernementales ou d'État pour aider justement ces personnes ?
Oui. Il est indéniable que dans le sillage de l'affaire MeToo, la parole s'est libérée dans les médias et les femmes maintenant savent qu'elles aient participé ou pas à s'exprimer via MeToo. Elles savent que plein de femmes dans plein de milieux, je ne vais pas les énumérer, artistiques, sportifs, médias, politiques, sont victimes d'abus, enfin de violences sexuelles. Donc ça, oui. Il y a eu une évolution, il y a eu le Grenelle des violences à l'automne dernier, quand c'était encore Schiappa Madame Schiappa qui était secrétaire aux droits des femmes. Et c'est peut-être le moment de rappeler qui chapeaute en France. Ça vous intéresse peut-être de savoir. Il y a le secrétariat aux droits des femmes, enfin, actuellement, c'est Elisabeth Moreno qui est la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle est chargée aussi de la diversité et de l'égalité des chances. Et en fait, elle a un profil de femme d'entreprise qui n'est pas spécialement marqué par un engagement préalable auprès des femmes. Et elle travaille bien sûr avec l'ARS, j'en ai parlé, mais aussi avec tous les délégués départementaux aux droits des femmes. À Valence, nous avons une déléguée départementale aux droits des femmes, Madame Kölsch. Donc elle travaille avec trois institutions au niveau national dont on entend régulièrement parler par les rapports qu'ils produisent chaque année. Il y a le Conseil supérieur de l'égalité professionnelle hommes-femmes. C'est assez intéressant. C'est un organisme consultatif. Il suit les politiques, par exemple, pour qu'en entreprise, il n'y ait plus ce plafond de verre et pour qu'il y ait des revenus équivalents, une égalité professionnelle. Donc ça, c'est le CSEP. Mais il y a aussi le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Lui, il fait un rapport, mais passionnant et déprimant, sur l'état du sexisme en France. C'est un rapport annuel. Sa mission, c'est d'animer le débat public. C'est Brigitte Grézy qui la dirige. Mais donc, si vous allez sur le site du Haut Conseil à l'égalité, HSE, vous aurez, si la question vous intéresse, beaucoup d'informations. Enfin, on a un petit peu le bras armé, c'est-à-dire, c'est moche comme expression, mais on a l'AMIPROF, mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et pour la lutte contre la traite des êtres humains. Donc, il s'occupe beaucoup de la prostitution. L'ami prof, c'est pareil, leur site internet est bourré d'informations pour les femmes et les hommes. Il y a des kits de formation, il y a des petites vidéos. Donc, l'ami prof, elle doit former les professionnels. Et ça, nous, sur le terrain, dans l'Ivoire, on constate que les professionnels ne sont pas assez formés et qu'ils souhaitent l'être. L'ami prof également tient un observatoire des violences. C'est toujours la même idée que nous. Si on ne nomme pas, ça n'existe pas. Donc nous, les chouettes, on souhaite aussi avoir disposé d'indicateurs. Et cette question a été portée au groupe de travail avec l'ARS. Et enfin, l'ami prof coordonne la lutte contre la traite des êtres humains. Voilà, donc ce sont, il y a des dispositifs nationaux. Et pour répondre finalement à votre question, la notion de trauma, de psychotrauma par exemple, elle est avec les attentats, avec les prises de parole répétées de quelqu'un comme Muriel Salmona. La notion de psychotrauma a fait son chemin. Il y a des notions qui sont vulgarisées. Et or, une femme victime de violence, c'est contre-intuitif. Elle peut rigoler en vous racontant la chose la plus terrible. Donc en face, la personne ne va pas la croire. Ou elle peut se taire parce que vous avez haussé un sourcil à un moment et que c'est déjà tellement difficile de parler que du coup, elle va rentrer dans sa coquille et vous n'aurez plus rien. Donc, toutes ces notions, c'est vraiment important. Psychotrauma, dissociation, déni.
Psychotrauma aussi qui affecte les enfants, ça c'est aussi un gros problème autour de ces femmes. Pour ça, comment vous agissez par rapport aux enfants ?
Alors, nous essayons d'être en partenariat, bien sûr, avec d'autres professionnels. Mais là aussi, ce que l'on constate, parce que il existe un organisme qui s'appelle la CRIP. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement...
Cellule de recueil des informations préoccupantes.
Voilà, ces informations préoccupantes concernant les enfants, qui est systématiquement contactée quand un parent ou un témoin appelle le 119. Mais cela relève d'une longue enquête sociale et psychologique qui ne permet pas, dans les situations d'urgence, de donner une solution. En général, cette enquête va aller directement au procureur qui, lui, décidera s'il transmet au juge des enfants ou au juge aux affaires familiales s'il y a déjà une procédure en cours. Donc, les enfants souffrent, bien sûr, et sont considérés d'ailleurs comme réellement victimes des violences quand ça se passe au sein de la famille.
C'est nouveau.
Oh, c'est nouveau, mais c'est heureux parce que ça a enfin été reconnu. Parce que moi, personnellement, qui étais maman d'enfants qui ont vécu ces situations-là, je sais combien d'années et d'années de thérapie leur a fallu pour en sortir, accompagnée d'ailleurs par moi, parce que moi aussi j'ai fait des années et des années de thérapie, et que reconnaître que cette situation est tellement traumatisante pour les enfants, c'est déjà un premier pas qui montre une évolution dans les consciences et au niveau du pouvoir public. Après, comme je l'ai redit, les délais, on n'arrête pas de le dire, les délais sont trop longs. Donc les enfants sont en situation de détresse quand aucune décision n'est prise pour savoir si, par exemple, quand ils sont en souffrance avec un père maltraitant et qu'il y a une séparation, on ne leur donne pas le choix. Ils doivent continuer à voir le père, même si celui-ci exerce des intimidations ou continue à utiliser son pouvoir. Voilà, donc il y a beaucoup à faire encore.
Par rapport aux personnes que vous avez accompagnées tout au long de ces années, hein, parce que les collectifs pratiquaient aussi cet aspect-là, est-ce qu'il y a en vous aussi, et est-ce que vous le constatez, une relève ou une transmission des personnes que vous avez accompagnées qui se mettent aussi elles-mêmes à vouloir aider d'autres personnes ?
Je dirais même que beaucoup de ces femmes ont en commun en même temps qu'elles vivent des grandes difficultés, de venir en aide à leurs amis qui, quand elles traversent aussi des grandes difficultés liées aux violences. C'est très souvent le cas. Il y a une entraide, il y a une compréhension immédiate, et comme tu disais, Marie-Ange, aux chouettes, on favorise des rencontres entre elles, avec ou sans nous. Parce qu'il y a des problématiques communes, la question des enfants après les violences, comment les aider à se reconstruire. Mais il y a aussi des agresseurs qui ont en commun des profils particuliers. Et à ce moment-là, les femmes entre elles, étant à des états d'avancement différents de la compréhension de ce qu'elles ont vécu, peuvent s'apporter beaucoup.
Parmi les partenaires donc, avec lesquels vous travaillez, lesquels sont pour vous les plus avantageux et qui développent justement encore plus de synergie peut-être ?
Les plus avantageux, on peut pas faire son marché parce que le choix est très limité. On a des professionnels de qualité. L'intervenante sociale en gendarmerie depuis 2013, donc c'est elle est salariée du CIDFF, c'est Sarah Moreau. Mais elle travaille à la gendarmerie. Et donc cette intervenante sociale en gendarmerie, qui a été créée, c'est un poste qui a été créé il y a une petite dizaine d'années, je crois, elle est très précieuse. Elle voit passer toutes les plaintes. Et n'importe qui peut appeler Sarah Moreau, enfin l'intervenante sociale en gendarmerie, il y en a deux en Drôme, hein. Et celle dont dépend notre territoire, je m'adresse aux auditrices et aux auditeurs, vous trouverez les coordonnées, je pense, sur le site de Erdivois. Et donc ça, c'est vraiment important. Elles sont basées au groupement de gendarmerie de Valence, mais elles se déplacent. Ça peut se faire par téléphone et puis par rencontre. Mais Remède aussi, sur le plan juridique, était une ressource très importante. Remède dispose d'un agrément du ministère de la Justice et reçoit tous les PV d'infraction, de dépôt de plainte et de renseignements judiciaires pour le motif des conflits familiaux et de violences conjugales. Donc, elle est vraiment au courant.
Une petite précision, les mains courantes ne sont plus acceptées dans ce domaine. Hein.
Non, plus de mains courantes du tout, ça c'est interdit. Plus de mains courantes. La charte d'accueil du public oblige tous les gendarmes, ce n'est pas encore respecté, mais oblige toutes les plaintes en gendarmerie à être acceptées. Et en sens inverse, une femme qui vient pour des violences, on va lui refuser une main courante parce que l'État, la force publique, considère que c'est trop grave.
Et elle sera remplacée par ce qu'on appelle le renseignement judiciaire, qui est obligatoirement envoyé au procureur et qui permet à la femme de ne pas porter plainte tout en étant, un suivi au niveau judiciaire.
Mais vous voyez, nous, les chouettes, ce qu'on apporte par rapport à ça, c'est que le renseignement judiciaire, c'est-à-dire la gendarmerie va transmettre au parquet, mais avec juste les éléments que la femme aura donné. Or, nous, on encourage les femmes à étoffer un peu leur plainte, c'est-à-dire à prendre rendez-vous et avant ça, à avoir rassemblé des éléments, parce que sinon, la plainte, elle va... Est-ce que j'ose dire qu'elle ne va pas quitter la gendarmerie ? On nous dit qu'elles vont toutes au parquet. Bon, alors, elle va aller au parquet, mais ça va être classé sans suite. C'est quand même un énorme pourcentage des plaintes comme ça. Donc, les femmes qui envisagent un dépôt de plainte, eh bien, elles doivent, dans la mesure du possible, rassembler des témoignages écrits. C'est très simple à faire. Hein. Des enregistrements, des photos, des certificats médicaux, fort important. Voilà, pour asseoir. Et pour diminuer le risque majeur que la plainte se perde.
Il y avait une barrière aussi, il y a encore quelques années, je ne sais pas si elle existe encore, c'est la sensibilisation des forces de l'ordre ou des services de gendarmerie pour la réception des plaintes. Est-ce qu'il y a plus de facilité aujourd'hui ou alors il y a encore une méfiance de femmes par rapport à cette institution ?
On ne peut pas citer de nom, donc de toute façon, on a quand même un référent violence à la gendarmerie de Die sur lequel on peut compter. Quant aux autres gendarmeries, les accueils sont très mitigés. Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les gendarmes ne connaissent pas le profil des femmes victimes de violences et que s'ils ne se forment pas, ils ne vont pas adopter l'attitude convenable et surtout si l'auteur de violence, lui, décrit les choses à sa façon, qui est de minimiser les faits, qui est d'accuser la femme de semer le trouble ou d'être malade mentale. Enfin, tous les arguments sont possibles du côté de l'auteur des violences. S'il est écouté en priorité par les gendarmes, c'est sûr que ça ne va pas le faire pour la femme, quoi.
Nous souhaitons aux chouettes que soit créée, alors comment appeler ça, une brigade spécialisée, enfin...
Un
pôle spécialisé dans la Drôme, ou en tout cas sur Crédit, par exemple, de gendarmes motivés et formés aux violences. Parce que on devient rarement gendarme pour qu'une femme en pleurs ou tétanisée vous raconte les violences. Non, les gendarmes, ils ont... Voilà. En plus, un corps qui reste essentiellement masculin, c'est pas forcément... Enfin, c'est pas forcément l'idéal, sachant que homme ou femme, les gendarmes peuvent être des très bons, peuvent inspirer confiance. Mais néanmoins, c'est un goulet d'étranglement formidable. Ça reste. Alors, comme tu dis, on va pas nommer, mais il y a un énorme besoin de formation et de disponibilité en temps. Si on nous dit qu'au niveau national, c'est une priorité, nous, on ne le voit pas sur le terrain, malgré la bonne volonté de certains acteurs.
Une après-midi, donc, le 24 novembre à Châtillon, à quel café, pour le moment ?
Le Café des Alpes.
Voilà, à se renseigner, donc, pour sa tenue ou non. Et puis, le 25 novembre, au cinéma Le Pestel a dit, donc, une projection de slalom, suivie d'un débat qui sera avec...
Avec une personne du planning familial de Valence. Donc le planning familial, c'est une organisation très ancienne, militante. Il faut distinguer le centre de planification, qui dépend du département, et les plannings familiaux, qui ont une très belle histoire au service des droits des femmes, et qui accueillent toutes les femmes, les jeunes filles, et qui interviennent beaucoup dans les lycées, dans les écoles, pour sensibiliser. Parce que nous souhaitons aux chouettes... Là, on fait un petit peu... Nous, on vous a décrit ce qu'on fait après, une fois que les violences sont réalisées. Mais nous souhaitons beaucoup prévenir les violences. Et en particulier que ces fameuses séances d'éducation à la sexualité ou à l'égalité qui sont prévues dans les textes soient réalisées. Elles ne le sont pas chez nous. Elles ne le sont pas en règle générale.
Hein, dans les lycées et les collèges.
De la maternelle.
Depuis la maternelle.
À la terminale, 3 séances par an permettraient d'ancrer des représentations, hein, de défaire les préjugés sexistes qui nous imbibent, qui nous imprègnent tous et toutes. Voilà, ça c'est vraiment important pour nous.
Voilà, donc les chouettes avec en coprésidence donc Françoise Mar, Marie-Ange Castella Levin et Joël Coriol aussi qu'on peut nommer.
Je voulais juste redire que Joël Coriol anime un cercle de parole pour les femmes qui ont été victimes de violences ou d'abus sexuels. Voilà, donc c'est important de se faire connaître si on a envie en tant que femme de participer à ce type de cercle qui est animé par Joël, qui est psychothérapeute spécialisée en trauma.
Françoise Mar, Marie-Ange Castella-Levin, merci. Je vous remercie toutes les deux d'être venues nous présenter l'actualité donc des chouettes. Et est-ce que vous avez un site internet actuellement ?
Il est en construction. Pour nous joindre, nous les chouettes, c'est au 06 81 97 15 81. N'hésitez pas à laisser un message, on vous rappellera. Pour rencontrer la personne qui se déplace de Valence du CIDFF chaque quatrième vendredi du mois, eh bien, il faut prendre un rendez-vous au 04 75 82 06 10. Les rendez-vous se tiennent entre 9h30 et 12h30 et entre 13h30 et 16h30. De même, Remède, l'association d'aide aux victimes, très précieuse aussi, pour rencontrer Marjolaine Borne, le numéro est le 06 50 29 65 72. Si vous êtes témoin de violence avec un enfant, n'hésitez pas à faire le 119, le numéro national, en ayant rassemblé des éléments, le plus d'éléments précis pour appeler. C'est vraiment... C'est difficile comme démarche, en fait. Hein. On a l'impression de dénoncer quelqu'un, mais c'est quand même un énorme service à rendre à cet enfant. Et bien sûr, le 3919, si vous ne savez pas quoi faire en tant que femme, ou si une femme de votre entourage vous interpelle, vous n'êtes pas sûre, vous voudriez l'aider, vous ne savez pas quoi faire, au 3919, elles sont là pour vous conseiller.
Voilà, et j'indiquerai les contacts sur la page internet de l'émission, sur le site de RDIWA. Et bien, Françoise et Marion, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de journée.
Merci à vous.
Merci, au revoir. Yves.